France Inter. Le 18-20.
Et c'est parti pour deux heures de téléphone sonne spécial ce soir. Vous l'avez vu comme nous, un défilé politique a eu lieu chez le Premier ministre aujourd'hui. Les chefs de parti, leaders parlementaires les uns après les autres avec des solutions de sortie de crise devant le perron de Matignon. De crise de cette crise des gilets jaunes, suppression, allègement, moratoire pour les taxes, pour les uns ou pour les autres. Taxes sur le financement des énergies fossiles payées par les plus riches, démission du président. On a entendu beaucoup de choses, pas sûr que ce défilé ait été même regardé avec grand intérêt par les gilets jaunes qui, eux, en l'état, ne seront pas chez le Premier ministre demain. En tout cas, pour l'instant, tout ça manque terriblement de clarté. Parce que si le président de la République, semble-t-il, veut remettre de la politique dans la machine, on y viendra peut-être. Côté contestation, il reste ceux qui pensent toujours que la violence est la seule solution. Ils sont minoritaires, mais ils sont extrêmement visibles. Il reste désormais des gilets jaunes dits constructifs, prêts à discuter, mais souvent dépassés par ceux qui s'y refusent, voire parfois menacés. Certaines des invitations que nous avons d'ailleurs lancées pour ce téléphone sonne sont revenus à sortie de « Au vu des événements actuels et des menaces reçues, nous préférons stopper les plateaux, fermer les guillemets ». Tout cela ne facilite pas une sortie de crise, comme on dit. Ce qui est sûr, c'est que la crise sociale est devenue politique, cristallisée sur la personne du président qui, pour l'instant, se tait. On nous annonce un geste d'ouverture prévu dans les jours qui viennent et on verra ce que ça veut dire. Voilà où nous en sommes à cette heure-ci. Voilà où nous prenons la discussion ensemble avec les invités que je vous présente dans une seconde. Soyez les bienvenus.
Fabienne Saint. Le téléphone sonne.
Gérard est en Bourgogne et c'est vous le premier. Bonsoir.
Oui, bonsoir. En fait, c'est Gérard André. Enfin bon, écoutez, je vous appelle moi simplement pour vous dire qu'il y a... ça fait 12 ans que nous habitons un village qui s'appelle Étais-la-Sauvin. C'est extraordinaire ce que nous avons vu comme disparition de tous les services publics. Les services publics, la poste, il y avait une poste à l'époque où nous sommes arrivés. Aujourd'hui, c'est une agence postale et heureusement que la municipalité a fait des efforts pour embaucher une personne. Mais sinon, les trains... La santé. Alors, on nous a fermé une partie de l'hôpital de Clamecy, qui se trouve à côté de chez nous, et on nous a dit, ah ben, vous inquiétez pas, il y a un hélicoptère qui va venir. Alors, c'est fait, effectivement, cet hélicoptère, de temps en temps, vient. Mais on menace maintenant de fermer les interventions de cet hélicoptère. On n'a plus rien au niveau des services publics. Donc, je ne parle pas, c'est une région absolument extraordinaire. Alors, je ne parle pas même de l'industrie, mais au moins sur le sens de la vie, il n'y en a plus, il n'y a plus de possibilités. Et je ne pense pas que M. Macron, qui lui se trouve confortablement installé, et lorsqu'il y a eu les événements de samedi détestables, mais il était en Argentine, il n'a même pas pris le soin de venir, de prendre un avion d'urgence, l'avion que nous payons d'ailleurs, entre parenthèses. Alors, s'il vous plaît, essayez d'écouter un petit peu les campagnes et les gens dans les villes. Bien sûr, nous avons une convergence qui va se faire, j'espère, parce qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait un affrontement entre les campagnes et les villes, mais nous, dans les campagnes, nous manquons de services publics, nous manquons d'une aide permanente.
Gérard, j'entends ce que vous nous dites, pardon, mais c'est vrai qu'on aimerait bien qu'il y ait beaucoup d'appels ce soir. Juste un mot, est-ce que votre grogne qu'on entend, si ce n'est votre colère,
c'est exactement la question que j'allais vous poser. Tous ces gens qui occupent. Non, c'est pas de la grogne. La grogne, c'est un sous-entendu. À ça, je suis un petit peu déçu qu'une personne comme vous, j'entends, me dise ça. Ce n'est pas de la grogne, madame.
Ok, c'est de la colère. Est-ce que ça vous a fait porter... Gérard, est-ce que ça vous a mis un gilet jaune sur les épaules tout ce week-end, cette colère, ou pas? Est-ce que vous avez...
Ça me met un gilet jaune, rouge et tout ce que vous voulez, si vous voulez. Moi, je suis un... j'interviens aussi au niveau des textes et tout, donc il n'y a pas de problème. Je suis dans la lutte, mais écoutez, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a plus de service public et que j'ai senti fortement dans cette région qu'il y avait une montée des extrêmes et de l'extrême droite ici, parce que nous avons en particulier perdu ses services publics et plus personne ne sait à qui. On voudrait faire une démarche pour avoir le gaz, ce gaz qui augmente tant et plus. Eh bien, on ne sait pas à qui s'adresser. On ne sait plus, on nous parle, même les employés, lorsqu'on s'adresse aux sociétés de gaz, elles nous disent, surtout ne dites rien, parce qu'on n'a pas le droit de vous dire qu'on est le serveur de l'époque, donc le gaz de France, mais tout a disparu. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Monsieur Macron n'est pas le bon interlocuteur. Moi, je suis pour. J'ai entendu qu'on parlait de dissolution, mais surtout, moi, je pense qu'il faut faire voter. Il faut faire voter les gens. Il faut dissoudre peut-être cette assemblée, et surtout que l'on puisse tous se mettre autour d'une table, les gens des villes, les gens des campagnes, et puis, eh bien, réfléchir sur une autre société. Merci. Que cette société du fric que monsieur Macron, je suis désolé, eh bien écoutez, il ne transpire que de ça.
Gérard, merci beaucoup.
Ce mépris, vous savez, à la campagne, c'est encore pire que, peut-être que dans les villes.
On a entendu.
Et ce mépris que l'on a quand on a à l'égard de la jeunesse et tout, non, ça ne peut plus durer.
On a entendu.
Alors,
Gérard, pardon
si
de vous interrompre.
Si vous pensiez que c'était de la grogne, ça n'est pas de la grogne.
On a entendu.
Je suis désolé d'avoir été un peu long,
oui,
pour les autres auditeurs, mais gardez un peu le
Stop,
temps d'antenne
Gérard,
un peu plus
merci
longtemps.
Merci beaucoup.
Quel est le problème.
Merci beaucoup, Gérard. On a entendu que c'était de la colère et que c'était pas de la grogne. Et merci pour cette question et cette entrée en matière. En tout cas, pour répondre à la fois à vos questions, Gérard, mais à toutes celles qui viendront jusqu'à 19h d'abord et puis jusqu'à 20h ensuite. Alexandre est avec nous, il est au téléphone puisqu'il est porte-parole des Gilets jaunes de la région de Valence et on lui parlera évidemment dans un instant. Boris Ravignon est là aussi, c'est le maire de Charleville-Mézières, une ville qui a été touchée par les saccages, qui a essayé aussi de discuter avec les gens et on essaiera évidemment de voir un peu ce qui a pu se dire. Ici autour de nous en plateau, Jean Viard est là, sociologue, directeur de recherche associé à Sciences Po, au CNRS et en toute transparence. Vous aviez été, Jean Viard, candidat pour La République en Marche, absolument,
sûr,
et aucun problème. Et Yael Gauze, vous êtes le chef du service politique de France Inter. Jean-Vierge, je vais commencer avec vous, parce que dans ce que dit Gérard, il y a évidemment beaucoup de choses. D'abord, il parle d'une opposition ville-campagne. Est-ce qu'on est toujours là, au fond? Moi, j'ai l'impression, je me trompe peut-être, que dans ces trois semaines-là, on s'est rendu compte qu'on était dans quelque chose de plus complexe qu'une simple, finalement, opposition entre la ville et la campagne.
D'abord, je dirais que pour discuter, il faut du respect réciproque. Ce monsieur demande le respect, je voudrais qu'il respecte le président de la République. Il est normal que le président de la République ait un avion officiel pour circuler, et je pense qu'on ne peut pas dire n'importe quoi sur la République, parce que sinon on ne contrôlera plus les violences. Donc ça c'est la première chose, excusez-moi de le dire assez nettement, mais je crois qu'il faut faire attention à ce qu'on entend et à ce que chacun dit. La deuxième chose, c'est vrai, ce mouvement c'est quoi? C'est un double mouvement géographique. Il y a le territoire dont parle monsieur, j'allais dire le rural, très rural, et qui est le peu moins peuplé, ce qu'on appelle nous la diagonale du vide, effectivement, qui va en gros de Metz à Bordeaux. Il y a ce territoire-là, et puis il y a la Haute-Marne, il y a des endroits comme ça, où en gros, les gens sont partis. Et du coup, il y a moins d'habitants. Et quand il y a moins d'habitants, il y a moins de services. Et en même temps, les gens disent, on veut plus payer des taxes. Mmh. Et je les comprends très bien. Je trouve que cette taxation est pas très intelligente. Et de l'autre côté, ils veulent plus de services. Donc c'est quand même compliqué. Et après, le cœur du mouvement, c'est l'alliance entre ça, au fond, et j'allais dire, la population travailleuse du périurbain, pour donner un profil un peu différent. C'est-à-dire que l'essentiel des manifestants, ils habitent dans le grand périurbain. Souvent, ils sont devenus propriétaires ces 30 dernières années. Souvent, leurs femmes travaillent. Enfin, leurs femmes ou leurs maris, mais c'est des couples biactifs. Souvent, c'est des petits salaires. C'est des gens qui doivent être entre 1 200, 1 200, 1 300, 1 400. Et puis, à deux, ça fait 2 300, 2 500. Donc, c'est tout ça. C'est pas les plus pauvres. Et d'ailleurs, les pauvres des villes ne se sont pas associés. Et c'est
ce sont des salariés pauvres, on va dire,
pauvres,
pour la plupart.
Faut pas non plus exagérer. Le revenu moyen en France est de 1 700 euros. Je veux dire, donc, après, qu'est-ce que c'est qu'un pauvre? Mais enfin, le revenu moyen en France est de 1 700 euros. Le SMIC est un peu au-dessus de 1 000. Et en gros, on estime que pour vivre, il faut un peu 1 400, 1 500 euros. Pour donner des chiffres comme ça. On peut pas traiter, on peut pas non plus, si vous voulez, donner tout. Donc, la question, c'est que c'est ces gens-là. Au fond, ils avaient réussi leur vie. Ils l'avaient construite sur un modèle de cette vie périurbaine où tous les matins ils sont dans les embouteillages. Et puis d'un coup on leur dit ce modèle il est périmé. Je suis pas sûr qu'on leur dit consciemment. Mais en gros on leur dit aujourd'hui on est sur la toile, on est dans la ville, il peut y avoir des gens sur la toile à la campagne.
Mais c'est ça qu'ils ont perçu d'Emmanuel Macron, c'est
mais Macron,
la nouvelle France,
oui,
c'est
mais
pas
c'est
vous,
pas que c'est pareil aux Angleterres, aux États-Unis. Dans toutes nos grandes démocraties, on a construit pendant les 30 Glorieuses une ville périurbaine qu'aujourd'hui on ne sait plus quoi en faire. Et donc les gens qui y sont se sentent rejetés. Et surtout, on ne fait pas un modèle politique pour eux. On devrait dire, il y a une pensée écologique de la ville, dense, avec des règles et des lois, et une pensée de la périphérie. Or, il n'y a pas de pensée de la périphérie. Donc ces gens disent, attendez, mon modèle de vie, il fait quoi? Ils se sentent pas respectés, et ils ne le sont pas.
Yael Gauz, est-ce que cette séparation-là, vous avez le sentiment qu'elle finit par être comprise, et c'est la raison pour laquelle peut-être on est en train de changer, de braquer aujourd'hui politiquement, ou pas encore?
En tout cas, c'est une dualité sur laquelle les oppositions ont surfé, ont poussé pendant des mois et des mois. Souvenez-vous de Laurent Wauquiez, il avait fait une tribune il y a 6 mois, très très assassine, dans le journal du dimanche, pour dire que Emmanuel Macron, c'était vraiment le président des villes et qu'il méprisait, il avait la haine des campagnes. Tout ça a fini par infuser, mais aussi alimenté par un président qui, au fil d'interviews, au fil de petites vidéos tweetées, laissait apparaître dans son langage un champ sémantique qui a pu heurter ces habitants-là. Quand on parlait du pognon de dingue pour les pauvres, des gaulois réfractaires à l'étranger, enfin on connaît toutes ces expressions, jusqu'aux illettrés de Gade quand il était ministre de l'économie, il ne faisait qu'un constat sociologique à l'époque, mais ça a été pris comme une insulte à une partie des salariés. Donc voilà, ça a fini par imprimer. Il y a une politique pour les territoires, évidemment. Il y a un ministre, Jacqueline Gourault, un gros pôle même, avec 3 ministres, 2 ministres sous ses ordres et Jacqueline Gourault au-dessus, qui gère la cohésion des territoires. Il y a eu une prise de conscience, évidemment. Il y a eu des tentatives pour renouer le contact avec les régions de France, les maires de France, les départements de France. Mais, voilà, tout est dans les symboles, hein.
Et la réponse aujourd'hui, on nous annonce un geste d'ouverture. Encore une fois, est-ce qu'il y a eu une compréhension, quelque chose qui dit ok, puisqu'il faut débloquer et que ça va être compliqué venant des gilets jaunes qui pour l'instant n'arrivent pas à se mettre entre eux, nous on va y aller, on va le faire le premier pas. Est-ce que c'est ça qu'il faut lire ou pas?
Il faut lire ça, mais avec un retard à l'allumage. On a perdu à 2 semaines dans la réponse et le geste fort, il devrait arriver demain effectivement. On parle de moratoire sur les taxes. Carburant, peut-être d'autres taxes aussi liées à l'énergie. Ça, c'est en cours d'arbitrage en ce moment. Il y a une réunion à l'Élysée.
Mais parce qu'il ne faut pas mélanger. Les 10 métropoles françaises créent 61% de la richesse collective. Et une partie de cette richesse est distribuée à l'extérieur. Donc en termes d'argent, j'allais dire public, on est plutôt de la métropole vers l'extérieur. Mais par contre, en termes des habitants, c'est dans l'autre sens. Et c'est ça qui est compliqué. L'État a l'impression de faire son travail. Il ne le fait pas parce que la vie est plus chère pour ces gens-là que pour les autres.
Alexandre, merci d'être en direct avec nous. Vous êtes l'un des porte-parole des Gilets jaunes de la région de Valence. On dit donc qu'un geste d'ouverture va être annoncé probablement demain. Alexandre, qu'est-ce que vous attendriez-vous s'il y a ce fameux moratoire? Est-ce que vous prenez ou est-ce que vous jetez?
On n'y croit pas trop. On n'y croit pas trop. C'est quand même déplorable d'arriver à une France en feu au bout de 3 semaines et qui commence à peine à se réveiller sur les conséquences que ça peut avoir sur tous les Français. Moi, à titre personnel, j'y crois pas. Il y a effectivement les Gilets jaunes, donc il y a beaucoup de revendications qui sont faites, des listes qui sortent tous les jours. En gros, le plus simple, ce serait que M. Macron parte avec son gouvernement et qu'on remette les choses à plat et qu'on recrée une élection à réfléchir après. Hein. Après, c'est le boulot des politiques de faire ça. Mais au vu de toutes les revendications qui sortent tous les jours, je pense que le plus simple, ce serait qu'il s'en aille.
Et est-ce que, par quoi, selon vous, du coup, si cette solution était choisie, par quoi vous seriez-vous représenté au fond? Parce que vous risquez de vous retrouver exactement dans une situation similaire. Donc il faudra bien que vous vous retrouviez derrière quelqu'un qui peut porter ses revendications. En l'état, est-ce qu'il peut sortir de vos rangs? Ou est-ce que vous avez le sentiment qu'un homme politique qui existe déjà peut les porter? Alexandre?
Non, nous, on n'est pas encore à ce stade-là. On est en train de crier la colère, la détresse de tous les Français aujourd'hui. Donc, on n'est pas à réfléchir de ce qui va se passer demain au niveau politique. On est en train d'essayer de se faire entendre depuis 3 semaines, enfin depuis même plus que ça, même avant le mouvement. Et c'est là le problème, en fait, aujourd'hui. Nous, on veut se faire entendre et on n'est pas entendu. Quand on voit comment les politiques, M. Castaner ou tout ça, qui sont ciblés que sur de la répression, tout ça, on n'est pas entendu.
Mais est-ce qu'à un moment, Alexandre, vous n'allez pas vous retrouver coincé par le manque de représentativité qui est la vôtre? À un moment, il faudra bien s'asseoir. Et la difficulté pour l'instant, c'est qu'aucun d'entre vous ne peut s'asseoir devant le Premier ministre ou un autre parce que vous avez du mal à vous mettre d'accord les uns avec les autres. Est-ce qu'à un moment, il ne faudra pas quand même faire la synthèse de, comme vous dites, ces revendications qui sont si diverses et qui viennent de partout?
Peut-être, effectivement, il va falloir s'organiser. Mais M. Macron, il n'est pas bête. Il sait très bien. Il sait très bien ce qu'il faut faire pour que ça change.
Et donc,
j'ai pas de revendications précises, puisque je vais en dire une, il y en a un qui va en dire une autre, et ainsi de suite. Et voilà, on va se retrouver avec 60 millions de revendications. C'est pas possible. Mais il sait très bien ce qu'il faut faire pour sortir de là, dans un premier temps.
Et alors, c'est quoi qu'il faut faire dans un premier temps? C'est pas son départ dans un premier temps, j'imagine. Le premier temps, c'est quoi? Est-ce que c'est annuler les taxes, annuler la taxe sur l'essence? Le premier temps, c'est quoi?
Mais je vais pas vous le dire. Vous savez très bien, et il le sait aussi. Je peux pas dire, moi, je veux ça, et je peux pas, moi, prendre ma seule responsabilité de dire des revendications. Il le sait très bien ce qu'il faut faire. Mais vous aussi, vous le savez, vous êtes journaliste. Vous les entendez, les Français en colère?
Oui, on entend les Français en colère, Alexandre, mais on entend aussi toutes les diverses revendications qui ont été mises sur papier. Donc, la question que je vous pose, c'est quelle est la première? Quelle est celle qui ferait débloquer les choses? Et ça, moi, je n'ai pas cette réponse.
La baisse des taxes.
Voilà.
Oui, mais okay. Ça, c'est clair. Je veux dire, je crois que si vous voulez, ça c'est clair que la baisse des taxes, c'est le béaba de la négociation. Mmh. Honnêtement, ça aurait dû être fait la semaine dernière, si je peux me permettre. J'ai pas de conseil au président de la République, mais la semaine dernière, dans son intervention, il aurait dit ça, ça aurait déjà dégonflé les choses. Parce qu'après, permettez-moi de dire quand même, il y a quelques centaines de milliers de Français qui manifestent fortement. Il y a un soutien populaire, mais il n'y a pas quand même, je veux dire, 10 millions de gens. Donc il faut faire très attention. Quand monsieur dit qu'il parle au nom des Français, oui, mais enfin, on a vu des manifestations, quand j'avais 1 million de personnes il y a quelques années. Donc, si vous voulez, c'est un mouvement qui a le soutien populaire, on le voit bien dans les études, qui a plutôt tendance à augmenter. Il faut dire, quand on dit qu'on va baisser les taxes, personne ne peut être contre. Mais derrière ça, il y a effectivement un rapport, certainement, du pouvoir. Au gros, si vous voulez, le gouvernement, il veut faire le bien des gens. Et les gens, ils ont envie de faire les choses avec. C'est-à-dire qu'au fond, qu'ils soient acteurs. Et pas qu'on leur dise, ah ben nous on sait ce qu'il faut faire, alors écoutez, on s'occupe de votre problème. Mmh. Non, c'est pas ça. Et puis en plus, je crois que si vous voulez, on sort de crise, après 10 ans de crise, les gens, ils ont envie qu'il y ait du blé à moudre. Voilà. Pour dire les choses comme ça sur la feuille de paye, et il n'y en a pas.
Et à l'instant, je vous le dis, puisque ça vient de tomber, d'abord Emmanuel Macron n'ira pas en Serbie demain comme prévu, effectivement, parce qu'il a d'autres, visiblement, du grain à moudre ici. Et il n'y aura pas de réunion, pour l'instant en tout cas, entre les Gilets jaunes et Matignon, puisque Gilets jaunes ont eu du mal à se mettre d'accord. On va retourner au standard, Yael, juste une seconde, peut-être.
Oui, le calendrier est le suivant. Donc demain, a priori, une annonce du Premier ministre pour dire on va faire un moratoire.
Donc c'est le Premier ministre qui parle, c'est pas Emmanuel Macron demain.
Ça sera affiné, mais pour l'instant, c'est le Premier ministre qui rencontre sa majorité, qui devait voir les Gilets jaunes et qui ensuite déroule 2 débats parlementaires à l'Assemblée et au Sénat jeudi. Donc c'est là que tout ça sera débattu. Et ensuite, on espère, le côté gouvernement, c'est l'espoir, que les choses soient plus calmes et qu'on puisse démarrer cette consultation de 3 mois territoriale annoncée par Emmanuel Macron la semaine dernière pour que l'écologie devienne populaire. Et au bout de 3 mois, février, d'autres gestes qui seront issus des doléances remontées de ces consultations dans les territoires.
Et on verra si ces 3 mois permettent de calmer un peu le jeu. Je voudrais qu'on écoute Monique. Bonsoir Monique.
Oui, bonsoir.
Soyez la bienvenue, on vous écoute.
Oui, alors moi je viens d'entendre Alexandre, je crois, qui disait que pour le moment il portait pas de revendications, qu'il voulait crier la colère de tous les Français. Donc je voulais déjà dire que moi j'ai pas de colère, j'ai beaucoup de tristesse par rapport à ce mouvement. Alors moi j'ai 3 questions. La première question, c'est pourquoi les médias font un tel effet loupe depuis 3 semaines, sur un mouvement qui compte finalement, quand on compte le nombre de manifestants, à en croire ce que les médias nous disent, il y a moins de 500 000 Français qui manifestent sur toute la France.
Oui, largement.
136 000 ce week-end, oui.
136 000 ce week-end. Donc pourquoi cet effet loupe? Est-ce qu'il n'y a pas un danger énorme d'étendre ce conflit un petit peu partout, puisqu'on voit que les lycéens reproduisent un petit peu ce modèle en disant « nous, on est comme les Gilets jaunes ». Ma deuxième question, c'est est-ce qu'on peut vraiment qualifier de démocratie directe des barrages qui s'érigent à la sortie des villes, qui bloquent les passages, et si on peut passer, on est obligé de sortir sans gilet jaune. Moi, je crois beaucoup à la démocratie. Je comprends pas bien et je refuserai de sortir un gilet jaune quand je passerai un barrage, parce que j'ai le droit de penser autrement que ces gens qui sont là, d'ailleurs sans avoir déclaré leur manifestation, et qui nous empêchent de passer. Et puis la troisième question, ça rejoint à ce que disait Alexandre tout à l'heure, c'est comment l'État, le gouvernement qu'on a élu démocratiquement, je fais peut-être partie du vieux monde, mais voilà, comment ce gouvernement peut répondre à un mouvement qui menace de mort ses porte-parole et qui, Alexandre nous l'a dit lui-même, il y aurait 60 millions de revendications. Moi, je sors de 40 années d'enseignement dans un collège de ville qui regroupe la France périphérique, la France urbaine et la France des banlieues. Je viens de passer 40 ans à essayer d'expliquer aux enfants qu'au-delà du pouvoir d'achat, il y avait le pouvoir d'apprendre. La dignité, le pouvoir d'apprendre, le pouvoir de s'émanciper en apprenant. Et c'est pas un gros mot, l'émancipation par le travail. Et moi, j'ai essayé d'établir l'unité entre cette France périphérique, cette France des banlieues et cette France un peu favorisée. Les conflits et la violence et dégradation, parce qu'on en a eu aussi dans les établissements, n'ont jamais mené à rien. À condition que la parole puisse être portée pour essayer d'amener des solutions. Donc moi, j'ai pas de colère, j'ai beaucoup de tristesse quand je vois tout ce qui se passe autour de moi. Et je n'approuve pas cette façon d'exprimer une tristesse. Certes, il y a des difficultés, mais je n'approuve absolument pas ce mouvement. Et je n'entends pas beaucoup les médias tendre le micro à des gens qui n'approuvent pas ce mouvement.
Merci beaucoup, Monique, pour ce témoignage. On va venir sur cette dernière partie. Je voudrais poser la question à Boris Ravignon, qui est en direct au téléphone avec nous. Bonsoir, monsieur Ravignon.
Bonsoir.
Vous êtes le maire de Charleville-Mézières. Votre étiquette, c'est LR, pour encore une fois, par souci de transparence. C'est pas ça l'idée ce soir. L'idée, c'est que Charleville-Mézières a été touché par beaucoup de saccages ce week-end. Il y a eu une tentative de dialogue. Comment ça s'est passé chez vous, en fait ?
Alors, on a eu effectivement des débordements qui sont absolument inacceptables. On a failli incendier l'hôtel de ville de Mézières. Donc, on est vraiment passé tout près d'une catastrophe encore un peu plus grande. Et je crois que tout le monde, et bien sûr les élus, une grande part, l'immense majorité de la population et même un très grand nombre de gilets jaunes mobilisés ont condamné et réprouvent totalement ces débordements-là. Alors ils sont le fait de effectivement de quelques-uns d'entre eux radicalisés et puis aussi de petits voyous locaux qui se sont prêtés aux manifestations un peu pour s'amuser et puis parce que ça chauffait et que ça paraissait les attirer. Mais je crois pas qu'il faille prendre, je dirais, ces violences-là pour disqualifier l'ensemble du mouvement. Moi, je constate, et j'ai pu rencontrer donc effectivement hier et encore aujourd'hui, sur dizaines de gilets jaunes qui d'abord me disent réprouver la violence et ne pas vouloir s'inscrire dans ces modes d'action-là, mais qui portent un message. Et en fait, tous, ils ont une expérience individuelle. Ce qui les a amenés, c'est effectivement pas des mots d'ordre. Ils ont d'ailleurs bien du mal, on le voit et on l'entend, à articuler aujourd'hui des revendications, mais ils ont une expérience commune. Ces expériences communes, c'est quoi ? C'est qu'en général, ils travaillent. Face de moi, j'ai eu la plupart du temps des gens, parfois en CDI, parfois même des agents territoriaux, des agents hospitaliers, mais aussi des CDD, des intérimaires, ils travaillent ou ils veulent travailler et vivre de leur travail et ils disent aujourd'hui, je ne m'en sors plus, je n'y arrive plus. Et qu'est-ce qui a déclenché effectivement ce moment où ils ont le sentiment d'avoir perdu pied là, au cours des derniers mois? Eh bien, c'est effectivement un certain nombre de hausses de prélèvements ou de mouvements sur leur feuille de paye.
Ça, c'est le déclenchement, monsieur Ravignon, effectivement. Alors maintenant, il faut essayer d'en sortir. On entend ça aussi de la part des gens que vous avez pu croiser, avec lesquels vous avez discuté, la porte de sortie, selon vous, elle se situe où ?
Ah, moi, je pense qu'on aurait dû effectivement en venir à une approche globale de la transition énergétique ou écologique. Ce qui est très frappant, c'est quand on discute avec ces gens-là, je crois que pour la plupart, ils ne récusent absolument pas l'idée d'aller vers cette transition, effectivement, de se défaire du pétrole pour passer sur des énergies plus propres, plus respectueuses de l'environnement. Je crois qu'il y a une forme d'adhésion assez large à cette idée, sauf qu'ils sont aujourd'hui, se heurtent à vraiment à des difficultés très concrètes. Que les primes à la conversion écologique ne sont clairement pas suffisantes, il faut faire l'avance de la trésorerie, que et dans la situation dans laquelle ils sont, eh bien, ces alternatives qui leur sont présentées comme telles, ils n'arrivent pas à les saisir. Et je crois vraiment que on va faire les choses un peu à l'envers. On va certainement aller, et je le souhaite, sur une suspension des hausses de taxes pour rediscuter de comment on s'y prend et comment on implique, par exemple, aussi les collectivités territoriales dans ce débat sur la mobilité. Les politiques de mobilité, c'est pas l'État qui les pilote depuis Paris. C'est au niveau local qu'on peut soutenir le covoiturage qui permet aux gens d'économiser un petit peu de sous quand ils ont besoin de se déplacer en véhicule individuel. La mobilité électrique, l'autopartage, on le développe, nous, dans l'agglomération que je préside, eh bien, c'est au niveau local qu'on les conçoit. Alors, mais... peut-être avec, avec l'aide de l'État, mais je crois vraiment qu'on va, malheureusement, avec plusieurs semaines de retard et après des semaines de mobilisation, reprendre le problème, me semble-t-il, dans le bon sens, qui est la taxe, ben non, c'est pas un préalable, ça peut être à un moment donné... on verra si c'est nécessaire pour passer ce signal prix, mais sinon, il faut d'abord concevoir une politique de transition énergétique vers des mobilités plus économiques pour les personnes et aussi plus écologiques.
Merci Monsieur Ravignon, et vous restez évidemment avec nous. Avant qu'on retourne au standard, j'en viens, il y a deux choses en fait. D'abord, on a beaucoup dit qu'on avait pêché par verticalité, en fait, et c'est aussi ce que disent les élus de terrain qui se disent que les choses ont beaucoup de mal à remonter. Est-ce que c'est la rançon du non-parti ? En fait, au départ, au moment où s'installe La République En Marche, il n'y a pas de parti, donc il n'y a pas de socle finalement qui permet de faire remonter des idées.
Non mais il n'y a plus de parti nulle part. Je veux dire qu'à la limite, le Front National non plus n'existe plus. Je veux dire qu'on n'est pas dans des sociétés de partis, on est des sociétés d'individus. Là, les gens, ils se rassemblent, j'allais dire, par quartier, autour de leur rond-point, parce qu'ils habitent là. C'est la première fois. C'est pas des entreprises. On a connu des luttes par entreprise, des luttes par métier, des Renault, des... Là, c'est, il se passe qu'ils sont voisins. Et donc, au fond, ils ont le même type de problème social et le même sentiment de pas être regardé, si vous voulez. Donc, c'est une structure du politique quand même tout à fait particulière. Je pense que La République En Marche, comme a dit Bérou, c'est un parti gazeux. Mais c'est vrai un peu pour tout le monde.
Mais il y avait une promesse quand même pour La République En Marche.
Oui,
il y a aujourd'hui encore 125 000 adhérents actifs sur les 400 000. Il y avait les promesses de grande marche, la grande marche pour l'Europe, la première grande marche qui avait servi à la campagne.
Il y avait une nouvelle méthode de gouvernement.
De captation des humeurs du pays.
Le fond, je suis d'accord avec vous, et quand on écoute d'ailleurs des gens, y compris qui ont travaillé au programme, j'en fais partie, donc je veux pas me dédouaner du tout, parce que je le regrette pas du tout. Des gens comme Philippe Aguillon, etc. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit, ben, en gros, le programme, c'était quoi ? C'était mettre l'entreprise au centre et essayer d'arrêter de s'endetter. Je schématise le film. Bon, il se trouve qu'on l'a fait d'une telle manière qu'on dirait qu'effectivement la dimension sociale, l'attention aux individus, l'humanité des actions n'a pas été pensée. Et c'est vrai que sur ces questions de déplacement, pour faire juste un point, si par exemple il y a une taxe dans les entreprises sur le déplacement des salariés, mais il y a des entreprises qui vont aller se localiser là où habitent les gens plutôt que de faire déplacer les gens. C'est-à-dire que toute la pensée du déplacement, ce n'est qu'un bout de la question écologique, hein, excusez-moi. Ouais. Mais toutes ces pensées-là, on s'en met qu'il n'y a pas de réflexion globale, ça c'est vrai.
Mais cette fameuse taxe d'ailleurs dont vous parlez, qui existe dans la nouvelle loi mobilité, elle est de 400 euros, elle est facultative en fonction des entreprises, donc
c'est pas ça qui va changer la stratégie immobilière des entreprises.
Bonsoir Marc.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu Marc, on vous écoute.
Merci, alors juste une toute petite parenthèse. Madame Merkel n'a pas d'avion. Pourquoi reconnaîtrait-on à Monsieur Macron le droit d'en avoir 6 ou 7?
Je ne sais pas s'il en a 6 ou 7.
Voilà. Et Madame Merkel a failli s'écraser la semaine dernière parce que son avion était en panne.
Non, il y a un A330, il y a un A330 et un avion de secours.
Elle a fini par arriver, faute qu'il arrive aussi sans les avions. Alors, c'est juste un détail parce qu'il y a autre chose. Moi, je pense que, j'ai été très profondément choqué par les événements de ce week-end, je trouve ça inadmissible, et je pense qu'on est dans un pays qui ne mérite pas ça. Nous ne méritons pas ces images-là. Donc il faut qu'on trouve un moyen d'arrêter ça immédiatement. Ça doit cesser, on doit s'occuper surtout de ceux qui en ont le plus besoin. Et pour ça, il n'y a pas d'autre solution, parce qu'on a plusieurs défis devant nous. On a le défi écologique, et on a également le défi de la fracture sociale. Il faut rejoindre tout ça, faire une réforme fiscale digne de ce nom, c'est-à-dire mettre tout à plat avec les impôts, reprendre le code des impôts de A à Z, faire un nouveau système fiscal qui rétablit l'égalité entre les citoyens, qui ne permet plus aux GAFA de se soustraire aux impôts, et qui également donne les moyens à la justice française de lutter contre la fraude fiscale, supprimer toutes les niches fiscales qu'il y a, et les gens se sentiront, je pense que les gens se sentiront beaucoup plus égaux. Alors, s'il y a des dépenses, s'il y a besoin d'argent tout de suite, on arrête de se battre au Tchad, au Mali, au Moyen-Orient, on retire les armées et l'argent, on le donne tout de suite aux pauvres. On n'a pas besoin de faire la guerre au nom de l'Europe. Personne ne nous a demandé de faire la guerre là-bas.
Merci beaucoup Marc pour votre appel et pour ces remarques et pourquoi pas moi ce que j'entends dans ce que nous dit Marc Jean Viard c'est le problème c'est pas la fiscalité, le problème c'est l'équité de la fiscalité au fond et en tout cas la perception qu'on peut en avoir.
Oui, c'est ça, parce que on sera de toute façon jamais d'accord sur qu'est-ce qui est c'est que l'équité, si vous voulez. Mais on sent bien un désir d'égalité. Moi, je crois que c'est ça qu'il faut entendre dans les demandes des gens.
Un désir d'égalité, voilà. Et moi ce que j'entends aussi c'est un désir de fléchage. Où va mon argent?
Oui, mais bien sûr, mais les mêmes qui sont là, quand leur gosse va à l'école, est-ce qu'ils ont pensé que ça coûte à peu près 8000 euros par an, quand ils vont à l'hôpital, etc. Moi, je vais vous dire, dans cette société, on dirait aux gens chaque année au début de l'année, en CM2, ça coûte tant d'élever votre gamin, vous allez à l'hôpital, ça a coûté combien? Je pense qu'on a trop là-dessus, si vous voulez, fait une espèce de boîte noire de l'argent public, que les gens se rendent compte aussi de ce que ça coûte. Quand on vous change une hanche, combien ça coûte? Rien. Non, pas rien. Donc, si vous voulez là-dessus, il faut, je veux dire, ce qui coûte le plus cher dans cette société, c'est pas les, notre État nous coûte à peu près aussi cher que les autres. Alors, je dis pas que c'est bien, c'est comme ça. Ce qui nous coûte plus cher, c'est le social. On a en France une politique sociale beaucoup plus importante. D'ailleurs, on a vécu la crise, je dirais, moins mal. Alors, dire ça, c'est un peu odieux pour ceux qui vivent avec le SMIC, le RSA. Enfin, quelque part, il n'y a pas de RSA partout, même en Europe. Donc, si vous voulez, le problème de l'État français, c'est qu'on a une politique sociale qui, mine de rien, est plus favorable qu'autour de nous. Donc, tout ça fait qu'on dépense 48,5% du PIB en prélèvement obligatoire et que c'est devenu insupportable. Et donc, nous ne le supportons plus parce que c'est trop. Et donc, comment on réduit tout ça et comment on peut se mettre d'accord à quel endroit on coupe? Parce que couper dans le social, c'est facile, mais on va nous dire et les plus pauvres. Et ça sera légitime, le monsieur l'a dit tout de suite. Et en même temps, il nous dit ah, il faut pas intervenir au Mali. Oui, d'accord, mais le terrorisme, on fait comment? Donc, si vous voulez, c'est très bien que tout le monde s'exprime, mais après, il y a des règles de ce qui fait fonctionner un État. Et là, si vous voulez, on est dans une espèce d'ébullition. Tout n'est pas possible. On peut pas à la fois augmenter les services et diminuer les budgets. Ça, c'est pas possible.
Yael Goz, juste une minute, on va retrouver Alexandre dans une seconde.
On est dans un moment où le gouvernement s'apprête à reculer. Il va falloir assumer un recul politique. Le moratoire, il n'en était pas question. C'était le cap, on ne bougera pas, la transition, 1er janvier, transition écologique.
Oui, mais quand on fait une erreur.
Il faut assumer ce recul. Mais alors après, c'est le dosage. Jusqu'à quel point le recul obère la suite du quinquennat et casse le budget tel qu'il était prévu, ou jusqu'à quel point c'est tenable, soutenable de reculer? De combien?
Oui, mais ça, c'est bien la question qui est posée. Mais on peut aussi décider que le CICE, c'est pas cette année qu'on le passe en charge et qu'on garde, c'est quand même 30 milliards, etc. Donc, je veux dire, il y a aussi des affectations. Là, on a mis d'abord en avant, je dirais, la dimension financière de la stratégie. Et on a mis avant, il est clair qu'on a fait un pas, je dirais, qu'on n'a pas fait de politique. Excusez-moi, on a fait de la gestion financière. Et la gestion financière, ça rend les gens furieux. Et je le comprends très bien, je veux dire. Parce qu'à un moment, on aurait pu mettre en avant la suppression de la taxe sur le logement, etc. Les gens auraient pu d'abord voir. Et puis après, on aurait dit bon, et puis on va aussi toucher aux impôts sur les plus favorisés. Mais on a fait l'inverse. Moi, j'ai un peu l'impression que Bercy a réglé sa règle à calcul avec un programme qui avait été fait, mais l'ordre des décisions n'avait pas été écrit dès le départ. Et l'ordre a été mauvais, excusez-moi de le dire. Je pense qu'on le voit bien.
Je voudrais qu'on retourne voir Alexandre, qui est le porte-parole des Gilets jaunes de la région de Valence. Alexandre, on a compris dans ce que vous nous disiez tout à l'heure que pour vous, le plus important et le plus efficace, au fond, ce serait la démission du gouvernement. Mais je voudrais quand même un mot sur ce qu'on entendait à l'instant. Si on mettait en place ce qu'on a appelé une espèce de Grenelle de la fiscalité, c'est-à-dire qu'on remettait à plat les choses, est-ce que ce serait de nature à vous intéresser, à vous rassurer? Est-ce que les Gilets jaunes entreraient dans ce processus-là?
Encore une fois, je vais pas parler au nom des 80% des Français qui sont favorables et qui sont dans la rue.
Non, pas qu'ils sont dans la rue, monsieur.
Mais vous, je comprends que vous vouliez pas être le représentant de tous les Gilets jaunes, mais vous, Alexandre, vous, à titre personnel, est-ce que vous diriez ce Grenelle de la fiscalité, l'idée de remettre les choses à plat, ça m'intéresse?
Pourquoi pas?
C'est-à-dire? C'est-à-dire
Je ne parlerai pas en mon nom et je ne parlerai pas au nom des Gilets jaunes.
Ok, comme ça c'est clair. Merci beaucoup Alexandre de votre présence, porte-parole des Gilets jaunes de la région de Valence. Et en effet, moi je trouve ça intéressant ce que nous dit Alexandre Janvier, parce que la spontanéité et la difficulté de ce mouvement est résumée dans ce que vient nous dire Alexandre.
Oui, mais parce que ce qu'il faut entendre, c'est la demande de respect, c'est l'idée qu'on n'avait pas le sentiment de justice. Au fond, c'est des valeurs que ces gens expriment. Alors après, vous leur posez une question, j'allais dire quasi technique. quelque part, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils aient le sentiment de la justice. Vous savez, la justice, c'est un sentiment, avant d'être une réalité. Parce que c'est quoi l'égalité? C'est
et qu'on le sentiment tous le même de la justice, salaire, il etc. n'est que sonnant et trébuchant en l'état où on est.
Pas seulement. Le respect, c'est autre chose. Regardez, c'est les jeunes des banlieues qui, depuis 20 ans, auraient demandé le respect. Maintenant, on sent bien que c'est les populations du grand périurbain et des campagnes. Donc, je veux dire là-dessus, ces gens-là, il faut que ces valeurs soient mises en avant. Que le mot justice soit dans les analyses, qu'on le dise. Et là, je pense, si vous voulez, que c'est ça qui a été, d'une certaine façon, pas bien fait. On n'a pas fait une politique humaniste, on a fait une politique financière. Et les gens nous disent, je suis un être humain, je veux être respecté comme tel. C'est bien compréhensible.
Yael Gauss, tout à l'heure, vous nous disiez effectivement qu'il va y avoir un recul, donc, probablement, sur un certain nombre de taxes. Est-ce que recul veut dire pause? Ce sont des choses qui sont très différentes. Et surtout, est-ce que ça veut dire changement de cap?
Ça va être toute la difficulté, après, à gérer pour Emmanuel Macron. Est-ce que, oui ou non, c'est un acte 2 du quinquennat qui commence maintenant, comment on l'incarne, comment on le mène, mais la transition écologique, on a dit qu'on ne bougeait pas là-dessus parce qu'il en va de l'avenir. Benjamin Griveaux le redisait ce matin dans la matinale en disant voilà, est-ce qu'on le fait pour nos enfants, on le fait pas pour le plaisir de vous embêter, c'est parce que il y a un climat qui se réchauffe, il faut agir. Donc ça ne bougera pas, mais comment l'accompagnement social est renforcé pour rendre cette écologie populaire, c'est l'ambition post-Hulot d'Emmanuel Macron, c'est ça le défi.
Mais est-ce que le fait de faire une pause ou en tout cas de ce moment de recul, est-ce que ça veut dire que les réformes s'arrêtent au moins pour un temps, par exemple? Parce que c'est aussi cette cadence, c'est ce que disait Jean Viard tout à l'heure.
C'est la bonne question, Fabienne, parce que l'année prochaine, il y a plein de choses qui étaient programmées dans l'agenda.
À commencer par les retraites.
Les retraites à l'automne, la révision constitutionnelle à cet hiver, janvier, février, mars, et puis la PMA pour toutes au printemps. Est-ce que ce calendrier-là est encore valable, vu ce qu'on vit en ce moment, les priorités, pouvoir d'achat, injustice sociale? À voir.
Non, mais on entre dans une période de grande transformation. Personne ne peut complètement comprendre comment elle va fonctionner. Si vous prenez la question des retraites, paradoxalement, c'était tenter de répondre à la question du monsieur. C'est qu'on ait tous le même système et qu'on puisse toujours savoir où on en est avec nos points visibles. Donc c'était justement l'idée de rendre cette énorme machine transparente. Mais en même temps, forcément, il y en a qui y perdent et il y en a qui y gagnent. Donc si vous voulez, je crois qu'on est entré dans un énorme maelstrom politique. Et la question, c'est que chacun va devoir jouer prudemment pour que ça soit pas trop violent et pour que le sentiment de justice progresse. Et c'est les deux choses qu'il faut tenir en même temps et ça va pas être facile. Et puis, il y a des comptes publics à respecter aussi, il faut pas rêver.
Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières, vous vouliez intervenir?
Oui, je voulais intervenir parce que le débat fiscal, c'est je crois une grande passion française et effectivement, il y a certainement des choses à faire dans le domaine de la justice. Enfin, dans un pays qui est maintenant le recordman des prélèvements obligatoires par rapport à la richesse nationale et qui, où ces taux qui étaient déjà parmi les plus élevés du monde ont encore progressé ces dernières années, je crois qu'il faut quand même parler du niveau de ces prélèvements. Je pense que ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est le fait que ces gens perdent pied, tout en travaillant, on perd de pied, bien c'est le résultat de ça, d'une évolution où effectivement les prélèvements obligatoires, alors c'est vrai, avec des gens à la base de la distribution des revenus et puis tout en haut de la distribution des revenus qui donnent le sentiment d'échapper à l'impôt et donc il y a un sentiment d'injustice qui est perçu par les classes moyennes sur la fiscalité, mais il y a quand même un sujet de niveau. Moi ça fait à Charleville-Mézières 6 ans qu'on baisse des taux de la fiscalité locale. De la part communale, on la baisse tous les ans d'un montant supérieur à la revalorisation des bases pour que ça baisse pour les contribuables. Eh bien, on y arrive. Faut, je crois, arrêter d'imaginer qu'on ne pourrait pas mieux gérer les 300 milliards de dépenses du budget de l'État, les 450 ou 500 milliards de budget de la protection sociale. On peut, là aussi, si on le décide, arriver à faire des économies et redonner un tout petit peu d'air à nos concitoyens. Il y a un certain nombre certainement de mesures emblématiques, symboliques qui pourraient être faites pour montrer l'exemple depuis en haut. Donc, par exemple, quand on a voulu commencer à engager des économies importantes sur l'organisation de la collectivité, ben, on a commencé par diviser par deux les indemnités des élus. Donc les indemnités du maire, on a divisé par deux le nombre d'adjoints, etc., pour montrer qu'il y avait une vraie volonté de faire des économies. Et puis ensuite, eh bien, avec les fonctionnaires territoriaux, on a réussi à dégager ces économies qui nous permettent donc chaque année de baisser les taux. Je ne crois pas que l'État soit condamné à avoir une dépense pléthorique où il ne sait d'ailleurs plus ce qu'il dépense. Enfin, c'est tellement... J'étais avant d'être élu, j'étais aussi haut fonctionnaire et inspecteur des finances. Excusez-moi, mais le budget de l'État, il a des recoins. Il y a aussi des zones sombres où on pourrait aller mettre son nez et faire des économies tout à fait substantielles.
Merci beaucoup, Monsieur Ravignon. Je voudrais qu'on termine cette première heure avec Angélique. Bonsoir, Angélique.
Oui, bonsoir.
Soyez la bienvenue, Angélique.
Merci beaucoup. Oui, je réagis, je suis gilet jaune. Alors, je suis gilet jaune aussi très pacifiste parce que la violence n'amène à rien. Et même si c'est la colère qui porte les trois quarts de nous tous, c'est pas en étant violent qu'on va résoudre les choses. Nous, ce qu'on attend, enfin moi, ce que j'attends, et je parle à mon nom, hein, ce que j'attends, c'est effectivement un réel mouvement au niveau gouvernemental. C'est-à-dire que tous ces élus qui se battent pour nous, se battent vraiment pour nous, et qui fassent un premier geste, tous autant qu'ils sont, et même les fonctionnaires de là-haut, c'est-à-dire qu'ils se mettent une indemnité au niveau du SMIC, puisqu'ils ne savent pas ce que c'est que le SMIC pour certains, ben, au moins qu'ils se mettent une indemnité au niveau du SMIC. Et puis tous les excédents, ils n'ont qu'à les reverser aux organisations non gouvernementales, aux associations qui sont sur le terrain et qui vont donner à manger aux gens qui n'ont rien. D'accord ? Si déjà ils faisaient ça, simplement pour dire, bon, d'accord, on va connaître la valeur du SMIC, et puis tout ce qu'il y a en plus, on va le donner. On va le donner aux associations, on va aider les gens qui sont sur le terrain, parce que tous ceux qui se battent en bas, eh ben, on ouvre les là. Moi, je gagne rien. J'ai 650 euros exactement au niveau de Pôle emploi parce que je suis au fin fond du trou du cul du monde et que parce que trouver du travail dans mon corps de métier, c'est pas possible là
c'est
où
quoi votre métier ?
J'ai une maison. Je suis dans le socioculturel. Mm-hmm. Je suis aussi kinésiologue. Tiens, c'est un métier qui n'est pas reconnu. Enfin, je suis au niveau des gens et je le fais dans différents types d'actions associatives. Mais le problème, c'est que quand on voit ce qui est fait en haut, quand on entend des sommes, enfin, quand moi j'ai vu sur Facebook ce qu'on pouvait verser au niveau de l'État, donc au niveau de nos impôts, et j'en paye cette année des impôts, madame, je paye 228 euros d'impôts. J'ai gagné l'année dernière 850 euros net. Net. Et je paye 228 euros cette année d'impôts. Mais quand on donne des impôts, moi je suis pour donner des impôts, je veux bien qu'on donne des impôts, c'est normal de cotiser pour la société.
C'est des impôts sur le revenu que vous payez ? 200 euros d'impôts sur le revenu ?
Oui, je paye des impôts sur le revenu, madame. Je paye des impôts sur le revenu. Donc, pour... Ça me fait un peu rigoler, mais vraiment. Mais je suis pour, je veux bien. Mais qu'ils nous montrent là-haut ce qu'ils sont capables de faire, parce qu'on les entend bien parler. Ils nous disent bien qu'effectivement, ils vont faire ci, ils vont mettre en place ça. Oui. Mais qui taxe d'abord les revenus financiers ? Qui taxe d'abord aussi les personnes qui ont réellement de l'argent ? Et que eux fassent aussi un mouvement en disant, bon, mais d'accord.
Mais du coup, Angélique, pardon de vous interrompre, parce que l'heure tourne, je vous entends, mais alors, j'entends ce que vous dites, je vous disais, il faut qu'il fasse le premier pas tout à l'heure. Il est où le premier pas en fait ?
Le premier pas, c'est-à-dire que tous les élus, tous les députés, tous les sénateurs qui sont effectivement pour un changement, qui sont pour favoriser le lien social, qui sont pour remettre à niveau, on va dire, une économie qui ne correspond plus à une réalité de terrain, et bien que tous ces gens-là, ils disent, et bien voilà, tout ce qu'on a, tout ce que l'État nous donne, avant qu'on réforme tout ça, parce qu'il va bien falloir le réformer, et bien tout ça, ça sera là, maintenant, reversé aux associations. Parce que les associations, moi je ne donnerai pas cette année, je ne pourrai pas. Il y a plein de gens qui ne donneront pas cette année, parce qu'on en a marre, nous aussi, de payer pour quelque chose qui ne nous appartient pas. Merci. C'est pas nous la misère, c'est pas nous qui avons fait ça.
Angélique,
c'est ce système économique.
Angélique, on vous a entendu, et la discussion, elle se poursuit, puisque deuxième heure après le journal de Sébastien Paour, on reviendra à cette question. On a laissé en plan une question de Monique aussi, notamment sur l'effet loupe et les médias, j'ai pas oublié, et on y reviendra tout à l'heure. Merci à tous.
France Inter, le 18-20.
Et on poursuit ensemble la discussion autour du mouvement des Gilets jaunes, ses conséquences, ses réponses aussi. Vous avez été très nombreux à téléphoner en première heure, vous êtes nombreux encore. Et c'est tant mieux, on vous redonne la parole, changement de plateau, vous découvrirez nos invités dans un instant. On va notamment essayer aussi de se poser la question des corps intermédiaires. Les partis politiques ont donné au Premier ministre leur idée de sortie de crise tout l'après-midi. Mais qui les entend chez les manifestants ? Les syndicats, où sont-ils sinon impuissants devant un mouvement qui n'a pas besoin d'eux ou n'a pas besoin d'eux ? Encore, on verra ça ensemble, les journalistes, tiens, on en parle. J'ai pas oublié qu'il y avait la question de Monique qui restait en suspens et sur laquelle on pourra revenir dans un instant. La couleur du mouvement, les images qui sont montrées. Le numéro n'a pas changé, c'est le 01 45 24 7000 et soyez les bienvenus, c'est reparti.
Fabienne Synthès, le téléphone sonne.
Laurent, c'est vous le premier, bienvenue Laurent.
Bonsoir.
Allez-y, moi, Laurent, vous
pensais,
écoute.
Je pensais poser une question qui passerait plutôt en première partie.
Ben, je vous en prie, c'est pas grave.
Bon, enfin, je dirais, depuis 30 ans, on a l'échec de politiques, de d'énarques, qui ont des profils premiers de la classe, classe prépa, du style, j'ai pas envie d'apprendre comment on travaille sur le terrain, comment on devient cadre local, comment on contractualise, comment on travaille le relationnel. Je veux être tout de suite général avec les honneurs. Et le résultat, c'est que c'est des bugs en série depuis Juppé, Jospin, Hollande, Macron. Non seulement les présidents, les premiers ministres, mais en plus tous les conseillers dans ces ministères sont des gens qui ont les mêmes profils. Alors que, comme on dit toujours, le diable est dans les détails. Souvent, la compréhension des problèmes au niveau locaux, qui sont par centaines de milliers dans toute la France, passe par la connaissance de certains points sensibles. Or, ni M. Macron, ni M. Philippe ne s'encombrent de ces détails, parce que c'est pas du tout dans leur éducation, ni dans leur formation. Et je pense que c'est systémique de ce genre de confrontation. Et on va dire, enfin, moi, depuis que j'ai l'âge de vote, je vois des... Ce schéma est très long. Maintenant, on est arrivé à saturation parce que aussi la différence, c'est que cette fois-ci, Macron a construit son projet politique sur une enquête de porte à porte, sans tenir compte de l'expertise vécue que représentent aussi les représentants du personnel, des syndicats, des associations de consommateurs, ce genre de choses. Il est là aussi, il est passé par-dessus. Il est tellement intelligent. Le pire, c'est qu'en plus, j'avais adhéré à La République en Marche. Mais bon, quand on voit comment ça fonctionne à l'intérieur, c'est pas mieux qu'au gouvernement.
Mais alors, attendez, Laurent, du coup, ça m'intéresse. Vous êtes resté combien de temps à La République en Marche ?
Écoutez, j'avais envoyé des contributions personnelles sur la réforme des institutions, des collectivités, ce genre de choses, que tous les gens qui travaillent au niveau territorial étaient d'accord. Et je suis pas rentré dans le moule. Alors j'y assiste à quelques réunions jusqu'aux élections législatives, mais j'ai été un peu mis à l'écart parce que je rentrais pas dans le moule de la pensée du style les députés doivent rentrer au pas. Et au niveau local, au niveau de l'animation, c'est un petit peu des entreprises individuelles où faut rentrer dans le moule de l'animateur qui s'auto-décrète responsable coordinateur local. Voilà, j'ai l'initiative. C'est comme des petites entreprises. Et donc, il y a une certaine uniformité de pensée. Il n'y a pas d'esprit de contradiction ni de négociation. Donc la négociation, c'est un truc qui est relativement inconnu à La République En Marche et au gouvernement.
Et ben voyez, vous êtes finalement dans le thème des corps intermédiaires. Vous êtes même totalement dedans, Laurent.
Oui, parce qu'ils n'ont pas fait partie de là du process de programme. C'est des trucs totalement élémentaires, quoi. Qui a travaillé dans une intercommunalité, dans un service de développement territorial, sait qu'on demande toujours l'avis des gens du terrain, des CCI, des chambres consulaires ou d'autres. Mmh. On demande toujours. Et ensuite, on élabore un projet.
Le retour du terrain. On a compris, pardon Laurent, de vous interrompre pour qu'on puisse entendre un maximum d'auditeurs ce soir jusqu'à 20h. Pour répondre à votre question, Laurent, et à toutes celles qui viendront jusqu'à 19h, Laurent Pietraveschi est là, bonsoir.
Bonsoir Fabienne Synthèse, bonsoir vos auditeurs.
Bonsoir, vous êtes député de La République En Marche du Nord. Bonsoir Fabrice Angéhi, vous êtes secrétaire confédéral de la CGT.
Bonsoir.
Et bonsoir à vous, Étienne Gernel, directeur de la rédaction du Point. Bienvenue à tous au téléphone sonne. Laurent Pietraveschi, forcément c'est avec vous que je vais commencer. Ce que nous explique Laurent et ce que nous ont déjà expliqué finalement beaucoup des auditeurs qu'on a pu entendre jusque-là, c'est la promesse d'une nouvelle méthode de gouvernement. C'est comme ça que ça a commencé l'ère Macron. Et puis finalement, cette nouvelle méthode de gouvernement, non seulement ils ne l'ont pas vraiment vue, mais surtout on a l'impression qu'Emmanuel Macron s'est un peu pris les pieds dans le tapis quand même, de son ni droite ni gauche. Où est-ce que vous en êtes, vous, le député du Nord ?
Bon, d'abord, je salue Laurent qui est, si j'ai bien compris, adhérent à La République En Marche.
Donc, j'ai pas entendu
qu'il ne l'était plus. Alors, en tous les cas, moi, je rediscuterai avec lui volontiers après l'émission s'il le souhaite, parce qu'on a besoin de toutes les contributions. Peut-être un premier point d'abord, un petit peu moins un point de constitution. Le programme, le contrat avec la nation du président de la République, justement, Laurent, il n'est pas descendu par des énarques. Il a été justement co-construit. Et si vous étiez avec nous depuis avril 2016, vous avez sans doute participé à des porte-à-porte, à la Grande Marche, à des réunions où, effectivement, c'est pas facile quand on se connaît pas, quand on vient d'horizons différents et parfois qu'on n'a jamais été engagé en politique. Il faut apprendre à écouter l'un, écouter l'autre, prendre en compte ses remarques. C'est comme ça qu'on a construit le contrat avec la nation. Donc, ce que vous appelez de vos voeux, c'est-à-dire cette négociation, cette écoute, c'est ce qui a permis de construire le contrat avec la nation. Je crois que ce que vous soulignez, Laurent, c'est simplement que ce qui nous a permis de construire un contrat avec la nation qui a été validé par les Français, vous nous dites, mais aujourd'hui, en fait, vous fonctionnez plus comme ça. Vous êtes dans le déploiement de votre programme et vous nous interrogez pas suffisamment. Et moi, c'est cela que j'entends de ce que Laurent nous dit. Et d'ailleurs, ce que j'entends aussi dans ma circonscription, c'est ce que j'entends avec les marcheurs, mais aussi les gens que je rencontre qui sont ou pas gilets jaunes, parce que je pense que le débat d'aujourd'hui de société, c'est pas un débat que parce que certains ont mis des gilets jaunes. Ça concerne tout le monde et pas que ceux qui ont un gilet jaune. Et c'est aussi cela que
mais
j'entends.
Mais cette remontée de terrain dont vous parlez, Laurent Pietraszewski, elle manque, visiblement, c'est ce que vous êtes en train de nous expliquer. Donc comment on remet ça dans le bon sens?
Ben, elle manque et elle nourrit le débat. Donc on est interpellé très clairement sur un certain nombre de sujets. On a démarré par la taxation sur le carburant, mais on a bien compris que le débat était plus large que la taxation sur le carburant. Et d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même et dans un certain nombre de vos éditions, vous avez souligné que ce mouvement protéiforme, il y a effectivement parfois même des attentes qui sont contradictoires dans ce mouvement, mais il y a un besoin d'écoute et il y a un besoin d'expression. Donc comment on fait? Le président de la République, la semaine dernière, et peut-être qu'il n'a pas été assez entendu, mais j'entends qu'il faut aussi que peut-être qu'on modifie notre pédagogie, a bien reposé les choses en disant effectivement en matière de mobilité, en matière de transition écologique, il faut se réadresser aux Français, il faut les questionner, il faut co-construire avec eux ce que doit être la grande loi sur la mobilité.
Pardon, je pensais pas que vous aviez fini. Une remarque parce que je vous voyais faire des signes, Fabrice Angéli.
Enfin, c'est significatif. D'abord, ce que je voudrais dire à notre auditeur, à Laurent, c'est que plus qu'une question, il m'a appris quelque chose, qu'on savait un petit peu. Effectivement, la négociation est inconnue à La République En Marche, elle est inconnue au gouvernement, elle est inconnue par le président de la République. Parce que les organisations syndicales, du moins la CGT, n'a eu de cesse d'alerter, donc et pas depuis aujourd'hui, sur des questions de pouvoir d'achat, sur les salaires qui sont trop bas, y compris l'OCDE le dit. Donc les salaires sont trop bas dans notre pays, comme de partout en Europe, mais notamment dans notre pays. Sur les retraités comme ponctionnés, comme manifestés, donc c'est pas depuis aujourd'hui.
Oui, mais Fabrice
Angéli. Le gouvernement donc a été sourd et on nous dit écoute, la réponse c'est vous pouvez pas donc boucler les fins de mois. On va vous aider à acheter une fenêtre. Est-ce que c'est une réponse, ça?
Oui, mais Fabrice Angéli, vous l'avez déjà dit plusieurs fois, et vous n'avez pas réussi à mettre les gens dans la rue, comme c'est en train de se passer aujourd'hui avec les gilets jaunes. Vous avez tenu ce discours-là, et ça n'a pas fonctionné. Ça veut dire que vous aussi, vous n'êtes pas forcément audible auprès de ces gens-là, puisque pour descendre dans la rue, ils n'ont pas besoin de vous.
Je crois que la CGT a montré qu'elle pouvait être dans la rue, qu'elle était le premier. Elle appelle à la grève le 14 et on est en action continue d'ici là. Attendez, et après.
Enfin, le 1er décembre, vous étiez, je sais pas combien, comme ça t'es calculé, 2000 et quelques.
Oui,
honnêtement,
mais je pense que les compteurs là sont faussés et il n'y a pas que Paris en France et les gilets jaunes le montrent qu'il n'y a pas que Paris en France. Donc, on était, comme on est dans les entreprises, il y a beaucoup de luttes dans les entreprises. Donc, il y a beaucoup de corps aujourd'hui qui sont en lutte, les infirmières, etc. Par contre, je partage, on n'est pas ce que montre ce mouvement. Il y a des salariés dedans, il y a des retraités, il y a des salariés femmes en précarité, encore plus que les hommes. Donc ça montre qu'on n'est pas assez en proximité de ces salariés-là et qu'il faut l'être davantage.
Étienne Jernel, est-ce qu'on peut dire, pour résumer effectivement, que d'une certaine façon, le fait que Emmanuel Macron passe par-dessus les corps intermédiaires, il est en train de le payer là, chèrement avec ce mouvement des Gilets jaunes ou pas?
En tout cas, ce qui est très frappant, c'est de voir dans cette période troublée qui a des faux airs de révolution, que ça correspond, la contestation des corps intermédiaires, à l'histoire de la Révolution française. La Révolution française a eu comme objet, l'un des grands objets, de supprimer les corps intermédiaires, et c'est notamment cette loi Le Chapelier de 1791 qui disait « Il n'y a plus de corporation dans l'État, il n'y a plus que l'intérêt particulier de chaque individu et l'intérêt général. Il n'est permis à personne d'inspirer aux citoyens un intérêt intermédiaire, de les séparer de la chose publique par un esprit de corporation. » Et ce qui est propre des périodes de troubles, c'est précisément de passer par-dessus la tête des corps intermédiaires, et je ne sais pas si Macron lui-même l'a fait, probablement, mais en tout cas, les citoyens aussi, parce que vous avez remarqué que les gilets jaunes ne sont passés par personne, et pardon, pas par les syndicats, ni par toute autre organisation, pour organiser leur révolte.
Je voudrais qu'on écoute Martine qui nous appelle de Seine-et-Marne. Bonsoir Martine.
Oui, bonsoir à tous. Moi je pense que la situation est catastrophique. Monsieur Macron est en train de mettre en place le chaos dans notre pays. Je pense que c'est une façon volontaire de faire et qu'il n'a plus d'autre solution. De même que le ministère de l'Intérieur a organisé la violence et la pagaille qu'il y a eu à Paris samedi. Je voulais rajouter que Monsieur Macron a ouvert sa propre boîte de Pandore, puisqu'en fait il ne voulait plus de syndicats, il ne voulait plus de corps intermédiaire, il ne voulait plus de parti politique, et si je peux dire, il a en face de lui ses propres bébés.
Merci. Pardon.
Il a un peu l'effet du boomerang. Et je voulais dire que la violence, elle est pas forcément du côté de ceux qu'on croit. La violence, elle vient aussi des propos contenus certains députés En Marche vis-à-vis de la population, en particulier vis-à-vis des retraités. Il y a eu un mépris vraiment affiché de la part de certains d'entre eux. Et je pense que ça, c'est devenu intolérable. Mais je voudrais vraiment savoir ce que vos intervenants pensent de moi. Enfin, ce que je pense moi-même. Et vraiment, y a-t-il un effet de chaos volontaire ?
Merci Martine pour votre question. Alors, on va répondre à cette question, Laurent Pietraveschi, si vous le voulez, l'effet de chaos volontaire. Moi, ce qui m'intéresse aussi derrière la question, c'est le ton qui a été employé jusque-là. C'est quelque chose qui revient beaucoup de la part des gens qui nous écoutent. Est-ce que, en toute objectivité, vous vous dites, oui, il y a des phrases qui n'auraient jamais dû être prononcées ?
Je vais répondre à Martine d'abord, parce qu'elle nous interrogeait, mais... Effectivement, Martine, ce que vous soulignez, c'est vous posez la question, est-ce que ce qu'on a pu voir à Paris notamment, mais pas qu'à Paris, sont les deux derniers week-ends, comment c'est possible? Et moi, j'étais aussi avec des Armentières-Rois ce week-end, et ils m'ont posé ces questions-là. Donc je comprends tout à fait que vous nous interpelliez. Martine, je crois qu'il faut qu'on soit très explicite. Nous avons une responsabilité, le gouvernement a une responsabilité, c'est de permettre l'expression publique, pacifique, de permettre cette expression, c'est constitutionnel, mais également de garantir la sécurité des personnes et des biens. Donc, il faut que vous soyez quand même extrêmement rassurés sur le fait que qui que ce soit, même si les personnes qui sont au gouvernement n'ont pas, et puis c'est la démocratie, n'ont pas peut-être fait l'objet de votre choix électoral, en conscience, ces personnes doivent assurer les deux missions que je viens de dire, et donc il est évidemment clair que personne n'a intérêt à ce qu'il y ait du chaos dans Paris ni ailleurs.
Est-ce que on peut revenir sur cette question et ce qu'il y avait en creux dans la question de Martine? Est-ce qu'il y a un certain nombre de phrases dont vous vous dites aujourd'hui, oui, elles ont été regrettables, le pognon de dingue, les Gaulois réfractaires, traverser la rue, etc. Est-ce que en boomerang, vous avez le sentiment de récupérer en pleine face quelque chose qui a été dit ces derniers mois, une accumulation de choses qui ont été dites? Sincèrement, est-ce qu'avec le recul, vous vous dites ça, il fallait pas?
Le sujet de l'expression, on peut toujours avoir d'autres expressions, manier autrement la pédagogie, vous nous interpellez sur le sujet, on l'entend, de toute façon Martine nous le dit, donc on l'entend.
Mais vous l'entendez aussi ? Non mais sincèrement, vous êtes des élus de terrain, est-ce que vous faites aussi remonter ça ? Est-ce que vous dites attention à l'attitude ?
Bien sûr qu'on fait remonter cela, bien sûr qu'on fait remonter, mais ce qu'on fait remonter aussi, ce sont les attentes. C'est-à-dire que l'attitude, c'est une chose, je crois que notre interlocutrice, il serait intéressant, et bon, c'est pas forcément l'objet de cette émission, mais de connaître sa situation peut-être plus personnelle, savoir quelles sont ses attentes, ce en quoi, effectivement, elle est interpellée par la situation actuelle. C'est ça aussi qui est intéressant. Bon, sans doute qu'elle a été interpellée par des petites phrases ou des expressions qui ont pu la choquer ou lui déplaire. On l'entend, il ne s'agit pas de le repousser puisqu'on nous le dit. On l'entend. Maintenant, il faut qu'on passe à autre chose collectivement. Collectivement, l'objectif, c'est comment on fait pour permettre à tous ceux qui sont exclus durablement depuis plus de 30 ans du travail, qui fait qu'on a un taux de chômage de 10%, d'être oui ou non dans le travail demain et de constituer une société où on valorise le travail et où on a un vivre ensemble de qualité.
Oui, mais vous avez entendu, je vais vous donner la parole Fabrice Angéry parce que je vous vois réagir, vous avez entendu dans la rue, comme nous tous, que les réponses demandées aujourd'hui étaient des réponses plus immédiates, des réponses plus concrètes, on va dire, que simplement l'idée d'un meilleur vivre ensemble qui réparerait ce qui s'est passé ces 30 dernières années, honnêtement, monsieur Pietraveschi.
Oui, bien sûr, bien synthèse, bien sûr, j'entends bien tout ça. Le président de la République a donné un mandat clair au Premier ministre qui est en train de recevoir l'ensemble des groupes politiques, qui va passer également du temps avec les associations, et j'attends, je sais qu'il en sortira un certain nombre de décisions qui sont importantes.
Vous, l'élu de terrain, est-ce que vous dites il faut effectivement faire un pas en arrière, il faut reculer sur les taxes par exemple, reculer sur un certain nombre de choses. Est-ce que vous, l'élu de terrain, le message que vous envoyez en haut, c'est de dire il faut faire ce pas en arrière, parce que sinon on s'en sortira pas?
Les élus de terrain, ils envoient un message très clair, ils font remonter un message très clair au gouvernement qui est très attentif. Il est important de retrouver de la sérénité dans notre pays et de pouvoir échanger et construire ensemble. Et pour échanger et construire ensemble, il y a certainement des mesures qui sont attendues, qui seront à prendre. Le président de la République et le Premier ministre sont en charge de cela. Nous faisons le travail de remontée. J'ai toute confiance dans le fait qu'ils prennent les bonnes décisions. C'est pas moi qui vais vous les donner ce soir, c'est eux.
J'ai l'impression d'entendre un gilet jaune qui dit qu'il n'est pas responsable, lui non plus. Non,
comme nous, on peut donner les bonnes solutions.
Bien, écoutez, pardon. ça m'empêche pas. Ce qui est très intéressant dans votre remarque, c'est que effectivement, on peut se dire, bah écoutez, la démocratie, ça fonctionne comme ça. On vient sur France Inter, puis on va demander à Laurent Pietraszewski d'expliquer quelles sont les mesures à prendre auprès du ministre.
Non, ce que vous feriez, vous, puisque vous êtes un élu député, est-ce que vous voudriez voir remonter
avec ses collègues députés, il fait un certain nombre de remontées auprès du Premier ministre, dont c'est le job. Et croyez-moi, il est attentif de prendre en compte les remarques qu'on lui fait, y compris d'ailleurs les remarques des partenaires sociaux et des corps intermédiaires, pour voir comment est-ce qu'on peut trouver une situation, mettre en place, pardon, une situation demain qui permette d'échanger. Parce que la finalité, aujourd'hui, c'est de sortir de cette situation-là et d'être ensemble pour échanger et construire.
Fabrice Angély.
Oui.
Moi je vous voyais piaffé.
Oui, parce que moi, j'entends ce que dit l'auditrice, ce que dit Martine. Je l'aurais peut-être dit avec d'autres mots, mais on le partage pleinement. Ce qu'on partage pleinement, c'est que, entendons-nous bien, la violence est inacceptable. Mais aujourd'hui, le mépris qui a été affiché et qui est toujours affiché, le mépris des acteurs sociaux, nous nous considérons comme un acteur social et pas comme un corps intermédiaire. Le mépris des salariés, de nos anciens, des jeunes, donc de l'ensemble de la population, conduit à ce qui s'est passé aujourd'hui. Et moi, avec gravité, nous dénonçons, nous, les violences qui ont été faites à l'encontre des jeunes lycéens aujourd'hui, qui sont inacceptables. Et on attend que le gouvernement réagisse là-dessus, sur le gazage des lycéens, ce qui s'est passé aujourd'hui dans les villes de province. Il n'y a pas que Paris. Et donc oui, il y a mépris. Ce qui est porté, c'est la question de la justice sociale. Est-ce qu'on va y répondre ou pas? Et là, il y a des mesures immédiates. Et après, on pourra discuter. Mais dès à présent, il faut revenir sur les taxes sur les carburants. Il faut augmenter les salaires, les pensions, les prestations sociales. Il y a nécessité. Il faut rétablir l'ISF. La première chose, c'est qu'on a augmenté la fiscalité sur les ménages. Et on a de suite enlevé l'ISF pour les plus fortunés de notre pays, pour les premiers de cordée, sans aucun résultat. C'est ça l'injustice sociale. Est-ce que vous allez le faire ou pas, monsieur le député?
Ça, c'est inexact.
Est-ce que vous allez le faire ou pas, monsieur le député? 4 milliards d'un côté,
ponctionner
sur les citoyens, 4 milliards de données dans les poches des plus riches. C'est exactement. Non, et c'est pas que nous qui le disons.
C'est inexact de dire qu'on a supprimé l'ISF. D'ailleurs, à chaque fois, il nous manque toujours un morceau de la phrase qui consiste à dire: on a mis en place un impôt sur la fortune immobilière, mais ça, je ne sais pas pourquoi à chaque fois ce morceau de phrase ne vient pas.
4 milliards en moins.
Ça doit être une forme d'oubli involontaire, certainement. Et puis, ce qui est toujours
un petit peu gênant... Restez dans la surdité, s'il vous plaît, chacun après l'autre.
C'est pas une question de surdité. C'est le débat ne peut pas se construire uniquement autour de l'ISF. Le débat, il est sur...
Non, mais il y a eu un symbole.
Un certain nombre.
Honnêtement, il y a eu un symbole.
Je l'entends, je le reçois. C'est simplement ce que je dis. C'est si le débat ne tourne qu'autour de cela, on va sans doute perdre de vue les véritables attentes de nos concitoyens. Les attentes de nos concitoyens qui sont, depuis 30-40 ans, amenés à habiter en dehors des villes. Parce que dans les villes, on ne peut plus se loger. C'est trop cher. On est obligé d'acheter des appartements, des terrains qui sont éloigné des villes. Et en cela, on doit donc se déplacer, faire 30 ou 40 kilomètres par jour. Tout cela, cher monsieur, n'est pas arrivé il y a 18 mois. Tout cela, ça fait 30 ou 40 ans que nous construisons une société comme ça.
Ça nous le partage.
Et qu'effectivement, un dernier point qui est important, y compris chez les plus modestes, la part du budget imposé, c'est-à-dire dans notre budget, la part des dépenses sur lesquelles on ne peut pas toucher, elle augmente considérablement. Et dans cette part qui augmente considérablement, il y a effectivement le logement. C'est une vraie question pour tous ceux qui sont modestes. Et vous voyez, le sujet, il n'est pas aussi simple que de dire, tiens, il y a l'ISF. Le sujet, c'est de dire, comment est-ce qu'on fait pour répondre aux attentes de ces personnes-là? Vous avez tout à fait raison, parce qu'il faut y répondre, mais c'est certainement pas en cassant l'attractivité de notre pays qui sert à remettre de l'emploi.
Ben, on voit bien.
Étienne Journal, et puis on retournera au standard.
Moi, je suis quand même effrayé d'entendre la petite musique qui sourd partout, y compris de mon voisin de la CGT qui est très sympathique, mais de légitimation de la violence.
Elle était inacceptable.
Mais vous rajoutez des mais à chaque fois. La violence, elle est inacceptable. Point. Quand on commence à mettre un mais derrière, ça veut dire qu'on l'a légitime.
Je parle de responsabilité lourde du gouvernement.
Je trouve ça fascinant.
Vous dites que la responsabilité est celle du gouvernement. Ça veut dire que la violence du gouvernement est plus importante qu'une violence sur l'arbitre.
Je ne veux pas que ça soit mal interprété. La violence est inacceptable. Elle est condamnable.
Point.
Et le point derrière, c'est la violence aujourd'hui qui emporte la plus lourde responsabilité par le fait de ne pas entendre, c'est bien le président de la République, le premier ministre, le gouvernement et les députés.
C'est bien ce que je dis, ça s'appelle une légitimisation de la violence. Non, c'est légitimer la violence, parce que non. Si vous dites la responsabilité, alors parce qu'il y a de quoi dire hein, sur les torts de Macron, il y en a énormément à dire.
Je pense que ça avait retiré les mesures.
Monsieur, vous avez parlé, laissez-moi répondre. Quand on dit que c'est sa responsabilité, alors il y a beaucoup de choses à dire sur ses torts, mais la violence n'est pas de sa responsabilité. La violence, c'est la responsabilité individuelle et elle est inacceptable. Point. Quand on commence à dire que la responsabilité de la violence, c'est le gouvernement ou je ne sais qui d'ailleurs, ça pose un vrai problème. C'est comme si vous me tapez sur la tête, par exemple, et parce que je vous ai mal parlé. Ben non, vous êtes responsable de la violence que vous exercez. Point.
Et
c'est inacceptable d'entendre la légitimation de la violence absolument.
Il
n'y
a aucune légitimation. Ce que je veux dire, c'est que si les mesures avaient été prises, si on ne mettait pas 3 semaines à revenir sur un nombre de mesures, on n'a pas voulu entendre. Donc je pense que dès la première, parce que l'augmentation d'attaques sur les carburants, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il faut dire les choses. Derrière ça, il y a bien la faiblesse des pouvoirs d'achat. Comment vous vivez? On est d'accord sur les dépenses contraintes. Comment on peut vivre aujourd'hui avec un SMIC à 1 150 euros dans le pays? Donc si, ce que je dis là, si le gouvernement avait pris la mesure, si Macron était descendu de sa posture jupitérienne en disant OK, On fait un break et on discute, je pense qu'on ne serait pas arrivé à cette situation-là. Et donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
Non, non, si vous l'avez dit.
Bonsoir, Francis. Bonsoir, Francis.
Oui, bonsoir.
Allez-y.
Bonsoir. Alors, j'entends revenir les thèmes dont je veux parler régulièrement, mais personne ne veut les regarder en face, parce que je pense que c'est les raisons profondes. Il y a deux choses. La décentralisation. On parle de territoire, on parle d'aller comprendre ce qui se passe dans les territoires. Mais on a des élus, on a des gens, des fameux corps intermédiaires, on a des tas de gens dans les territoires qui sont plus à même de comprendre ce qui se passe là où ils habitent, plutôt que d'avoir des sachants dont, comme c'est une habitude en France et j'ai vécu dans plusieurs pays, le diplôme égale une compétence, du moins c'est ce qu'ils pensent, qui décident pour le pays entier sans comprendre les implications de ce qu'ils décident. Donc ça c'est une première chose. Est-ce qu'on va enfin avoir une décentralisation dans ce pays et donner aux gens localement la capacité de résoudre des problèmes locaux? La deuxième question, c'est ça concerne la transparence. Et je n'accuse pas M. Macron ni son gouvernement d'être fautif là-dedans parce qu'ils subissent 40 ans de ces problèmes-là, que ce soit la décentralisation ou la non-décentralisation ou la transparence. En France, on cultive la non-transparence. On joue avec les impôts, on magouille, on prend de l'impôt d'un côté, on le redistribue de l'autre, alors qu'on disait ce matin sur France Inter, en Suède par exemple, on a levé un impôt pour l'écologie et on l'a immédiatement redistribué sur l'écologie. Donc là, la taxe carbone, la TIPP, etc. va servir à compenser les 5 milliards qui ont été retirés de l'ISF, puisque monsieur tout à l'heure disait qu'il y avait pas l'ISF n'avait pas été supprimé, mais il y a 5 milliards qui ont été supprimés et qui devaient être compensés. Donc cette transparence, cette non-transparence, elle est perçue comme une arrogance et elle se trouve partout. Et il y a une incapacité de la part de ce gouvernement, comme des autres, de pédagogie. On ne sait pas expliquer. Je pense qu'on croit que les Français sont trop bêtes pour comprendre ce qu'on est en train de faire. Et tout ça ressort aujourd'hui avec une crise qui va devenir de plus en plus grande parce que les valeurs profondes, les malaises profonds n'ont jamais été traités depuis 40 ans. Moi, j'ai voté 2 fois pour Macron, aux 2 tours, et malheureusement, je pensais qu'il allait pouvoir faire avancer ces choses-là, mais je pense qu'il est complètement pris en otage par tous les sachants énarques qui l'entourent dans les ministères et qui, eux, de toute façon, passent d'un ministre à l'autre et d'un gouvernement à l'autre et d'une aile de gouvernement à une autre aile de gouvernement.
Alors, ce qui est quand même pas tout à fait le cas des ministres de ce gouvernement-là, qui sont plutôt des nouveaux entrants, si je puis dire, mais on a entendu votre question, Francis. Laurent Pietraveschi, c'est un peu ce que disait aussi l'un des auditeurs précédents. Celui-ci nous parle de fléchage de l'impôt, il nous parle d'opacité du système de restitution, il nous parle d'illisibilité finalement de la fiscalité. Il y a peut-être un moyen de rendre tout ça plus fléché et plus lisible, surtout pour les gens.
C'est vrai, il y a même une demande de sens en fait, moi ce que j'entends, d'ailleurs y compris dans une bonne partie de ceux que j'ai pu rencontrer moi ces dernières semaines, avec ou sans gilet jaune, c'est une demande de sens. Et y compris le sens de l'impôt et le fléchage, c'est qu'il est dit. Alors, deux choses. D'abord, l'ISF a été transformé en IFI, hein, en impôt sur la fortune immobilière. Et effectivement, c'est pas, on n'impose pas la même chose, tout simplement parce que dans un cas, on impose la rente, oui, l'IFI, et dans l'autre cas, on n'impose pas l'investissement qui peut contribuer à de l'emploi.
Voilà. Vous l'avez reconnu donc, vous-même, donc, effectivement,
je ne dis pas que ça apporte le même gain.
Je ne suis pas sûr que les gilets jaunes qui vous écoutent trouvent que la différence est patente.
Mais comme en même temps, à juste titre, on me reproche de ne pas faire assez de pédagogie, merci de m'avoir donné la minute pour le faire en la matière. La remarque est intéressante sur le fléchage, et il y a une autre remarque sur la décentralisation du territoire qui est faite par notre auditeur. Sur le fléchage, n'oublions pas une chose, c'est que plus on flèche un certain nombre de nos recettes, eh bien plus on se contraint sur un certain nombre d'actions. C'est-à-dire que, est-ce qu'on va flécher notre impôt sur le revenu pour ce qui est de l'éducation nationale, de l'armée, lorsque les priorités doivent changer, comment fait-on? On se souvient, moi qui ai plus de 50 ans, j'ai acheté à mon époque ces fameuses vignettes que l'on collait sur notre pare-brise. Souvenez-vous, c'était des vignettes annuelles et on nous disait à l'époque que c'était pour aider à la situation des personnes âgées. Bon, vous voyez que c'est évidemment, on se souvient très bien que ça n'a pas été le cas très vite. Donc vous voyez que tout ça, c'est assez compliqué et que au final, quand on fait ça, on met en danger la lecture de notre propre budget, de notre budget de l'État. Et l'État, c'est nous tous. Mais ceci étant, c'est pas pour faire une réponse de Normand, c'est quand même une question qui nous est posée et qui nous a été posée dans l'hémicycle d'ailleurs à de nombreuses reprises, y compris par des parlementaires de La République En Marche sur le fléchage, parce que ça permet de donner du sens et d'identifier. Donc faut pas rejeter ça d'un revers de main, mais il faut quand même se dire attention, c'est un peu compliqué à manipuler.
Bah, expliquez-nous pourquoi c'est impossible, notamment sur la taxe carbone par exemple. Il y a beaucoup de gens qui nous posent une question dans ce sens-là. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas une taxe écolo? Est-ce qu'on peut pas la redistribuer vers quelque chose d'écolo?
Mais j'entends bien que c'est une des demandes de sens qui est faite là. Le budget de l'écologie, il est bien supérieur, heureusement, à la taxe carbone, et que le budget de l'écologie, il est du ministère de l'écologie, François Durugy, il est alimenté, heureusement, par des tas d'autres entrants de ressources que la taxe carbone. Sinon, il aurait évidemment pas grand-chose à sa disposition. Donc, j'entends bien qu'on nous parle de cette possibilité d'aligner un certain nombre de taxes, de les flécher. On l'entend. Il faudra regarder ce sujet-là posément, tranquillement, de manière à ce que ce soit cohérent avec le fonctionnement de nos finances publiques. Mais il ne faut pas le repousser d'un revers de main parce qu'il contribue au sens. Et j'ai terminé parce que je voulais que vous vouliez réagir. Juste le point sur le territoire qui a été évoqué, et effectivement sur la proximité. La subsidiarité, c'est-à-dire la proximité, on fait au niveau où ça a le plus de sens, on décide au niveau où ça a le plus de sens. Eh bien, oui, effectivement, c'est une ligne, c'est dans les gènes, ça, de La République En Marche et de la majorité présidentielle, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait un certain nombre de réformes sur le dialogue social, pour qu'on arrête de tout décider à Paris, de tout décider dans l'hémicycle et au Palais Bourbon, pour le graver dans le marbre, et pour donner la place, y compris aux partenaires sociaux, de négocier dans les entreprises et dans les branches.
Étienne Journel.
Et moi, je suis pas totalement certain que Macron soit dans cette disposition d'esprit-là. Sa campagne a commencé par une espèce de consultation, mais quiconque le connaissait un petit peu avant se rend compte assez facilement que son programme, c'est ce qu'il pensait avant. Donc, il a sans doute consulté beaucoup de gens, mais à la fin, son programme, c'est quand même son programme. Non, je voudrais réagir sur la question du fléchage des ressources budgétaires. Mmh. C'est évidemment absurde. À quoi on affecte le revenu de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés, de la TIPP? Tout ça, ça ne veut rien dire. Il y a un principe d'universalisme budgétaire qui n'existe pas pour rien. C'est une question d'efficacité. Et pourquoi le revenu d'une taxe correspondrait exactement aux besoins de l'autre côté? Ça ne signifie rien. En plus, les ressources budgétaires, les ressources fiscales, leur produit est incertain. Il dépend de la croissance. Donc ça n'a aucun sens. Évidemment, il ne faut pas flécher parce qu'on se lie les mains et c'est la meilleure manière d'avoir une politique inefficace. Et donc oui, il faut le renvoyer d'un revers de main. Vous ne voulez pas le faire, mais vous faites de la politique. Moi, j'en fais pas, je peux le dire.
Bon, pardon.
Oui, sur le fléchage. Je crois que cette question bien sur le fléchage, c'est que c'est le gouvernement qui a motivé l'augmentation de la taxe carbone pour dire mais ça va servir à la transition écologique. Merci d'attester de ce que je dis là. Donc c'est vrai que cette idée du fléchage, je partage le fond que c'est absurde, mais elle a été introduite par le gouvernement et du coup chacun a vu que
c'est une manière de faire passer
ce qui était flou et derrière ce qui est flou, il y a toujours un loup. Ah, et là tout le monde l'a vu. Et moi ce que j'entends derrière là, non, c'était de la tromperie. J'entends derrière la question de l'auditeur, c'est plus la question du sens de la fiscalité, effectivement, d'une fiscalité juste. C'est ça qui est demandé aujourd'hui. Et nous, on est pour qu'il y ait des assises de la fiscalité.
Donc le fameux Grenelle de la fiscalité qui a été proposé par d'autres.
Non, c'est pas bien la même chose. Non. Nous, ce qu'il y a dessus, la fiscalité juste, c'est aujourd'hui, on examine ces 200 milliards d'exonérations de cotisations fiscales et sociales qui sont données aux entreprises sans aucun résultat aujourd'hui sur l'emploi, parce qu'elle est là, la réalité des chiffres. Et on nous dit, mais c'est pour la compétitivité. C'est bien ça, ce que je veux dire. Aujourd'hui, on a, par exemple, Engie, le groupe Engie, qui met des dizaines de milliards à l'étranger, donc sur ses bénéfices à l'étranger, au Luxembourg, pour optimiser son impôt. C'est ça. Est-ce qu'on lutte aujourd'hui contre la fraude fiscale? 80 milliards d'impôts. Quand je parle d'assises, c'est ça. C'est pas un grand fourre-tout où on noie les choses pendant 3 mois.
Je voudrais qu'on retourne au standard, retrouver Estelle. Bonsoir Estelle.
Oui, bonsoir. Alors, bonsoir Fabienne, bonsoir à vos invités. Donc, moi, je me pose la question qui me paraît centrale en ce moment. C'est comment les Gilets jaunes n'arrivent pas à se retrouver avec les syndicats. Voilà. Donc, peut-être qu'à un moment donné, ils se sont perdus de vue ou ils ne se sont jamais rencontrés, mais il me semble qu'on partage les mêmes idéaux, à savoir un partage des richesses. Donc, je discutais pas plus tard que cet après-midi avec ma mère qui me disait l'impôt sur les grandes fortunes a été éliminé, donc forcément... On augmente les taxes. Donc là, je m'adresse même pas aux représentants de La République En Marche, parce que j'ai même pas envie de lui parler. Je pose la question aux syndicats et éventuellement à tous les Gilets jaunes hein, qui, peut-être, c'est bien d'être dans la rue. C'est peut-être la première fois pour eux, certainement. Mais rapprochez-vous des gens qui défendent les droits des moins favorisés dans la société.
Mais ça veut dire, si je vous entends, Estelle, ce que je comprends, c'est que vous êtes sympathisante, mais pas en jaune, en fait, vous.
Ah non, je suis pas en jaune. Je suis, je sais pas ce que je suis en ce moment. Je suis un peu interloquée que un mouvement spontané, et ça me fait plaisir, hein, qu'un mouvement spontané se soulève en France. L'effet casseur fait beaucoup de mal à ce mouvement-là. Mais je constate un écart entre les Gilets jaunes et tous les partis politiques qui défendent les droits des plus modestes. J'aimerais qu'ils se rencontrent. Voilà, tout simplement. Et ben... Moi, j'appelle tous les gilets jaunes à enfin se mobiliser pour leurs droits et pour les droits des plus faibles. Et à se dire, bon, voilà, il y a 2 ans, quand Macron a été élu, je suis désolée, il a pas fait la politique des plus modestes. Donc, il est temps de se bouger, certes. Mais il existe des mouvements, alors peut-être qu'ils ne s'y reconnaîtront pas, parce que le communisme fait peur, parce que Mélenchon a une grande gueule, etc. Ceci dit, ne pas s'impliquer politiquement est forcément néfaste, comme fumer néfaste pour la santé. Voilà.
Bon, il faut faire de la politique, c'est ce que nous dit Estelle, sinon ça donne le cancer. Fabrice Angéhi, alors... Vous disiez tout à l'heure, effectivement, qu'il y avait des similitudes entre les Gilets jaunes et vous, mais objectivement, vous n'êtes pas derrière.
Non, on n'est pas derrière.
Vous ne les menez pas.
Non, on n'est pas derrière, on ne mène pas.
Et c'est des manifs du samedi, ça, parce que la semaine, ils travaillent, ces gens.
Oui,
en fait.
Mais on y était nous aussi le samedi, et je vais revenir, parce que la position de la CGT, c'est ni instrumentalisation, ni récupération. Et donc, il y a une légitimité, une colère légitime que l'on reconnaît. Maintenant, la responsabilité de la CGT, c'est d'agir en complémentarité sur son terrain, qui est le terrain des entreprises.
Et les entreprises ne sont pas parties. C'est
des administrations, mais on est en train de travailler sur ça.
Et c'est vous-même qui l'avez dit.
Oui.
Pour nous, il faut gagner la grève avec occupation des locaux, il faut bloquer l'économie.
Merci de me lire. Donc effectivement, et c'est à quoi on travaille, le 14 est une première date, il y en aura d'autres, et tous les jours on est sur le terrain.
Mais comment
et on
vous
parlait du 1er décembre, je vais y revenir. Ouais. Donc on a mené des manifestations dans beaucoup de villes en province. J'étais moi-même à Toulon. La rencontre avec les Gilets jaunes, pas avec tous, mais elle s'est faite. Les discussions, elles se font, et les revendications, et chez la plateforme, elles s'affinent. Dans ces revendications, je vois rien sur les cotisations sociales, je vois rien non plus sur l'immigration.
Est-ce que, sincèrement...
Et donc des propositions, attendez jusqu'au bout, qui se rapprochent de plus en plus de ce que porte la CGT.
Ouais.
Et les convergences, elles vont se faire petit à petit, dans le respect, c'est un moment hétéroclite, dans le respect de chacun. Et donc, auprès des salariés, dans les entreprises,
et
faire des échanges et les discussions.
Vous dites, syndicat, qu'il y a beaucoup de choses dans les revendications qui ressemblent à vos revendications.
Oui,
Jean-Luc Mélenchon dit que dans le programme, il y a des choses qui ressemblent à son programme. Il y a aussi des élus de droite qui disent la même chose. Au fond, vous ne l'avez pas accroché, il vous glisse entre les mains, ce mouvement-là, quand même, honnêtement.
Mais on n'a pas besoin de l'accrocher. Je veux dire que les jonctions, elles se font. Il y a eu des cortèges communs dans un certain nombre de villes, y compris par des appels communs. Il faut que nous, on travaille sur notre champ. Mais comme les jeunes le font, sur les questions de Parcoursup, de sélection d'entrée à l'université, sur le droit aux études. Donc chacun avec sa porte d'entrée, parce que ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est une injustice sociale qui est dénoncée. Et on a chacun à intervenir là-dessus. Mais je crois qu'on était, effectivement, donc, à un certain degré d'éloignement de la population, qu'il faut du temps pour renouer les contacts, pour discuter, échanger. Et je crois qu'effectivement, c'est un grand mouvement d'éducation populaire qu'on a sous les yeux aujourd'hui dans les échanges qui se font entre le syndicat, le mien et un certain nombre de Gilets jaunes.
Étienne Jernel, ce que j'entends aussi, c'est le gouvernement doit faire de la politique, mais les Gilets jaunes doivent aussi, au fond, faire de la politique pour que ce mouvement ait un sens ou pas?
Oui, il faut exister dans une vie politique qui est moins rythmée par les partis, qui existe moins, beaucoup moins, et la plupart sont complètement ont été ratiboisés en 2017, et la République En Marche qui subsiste, mais on comprend pas très bien ce qu'il y a dedans. C'est pas clair, en tout cas, même la République En Marche, qui est même un parti majoritaire, même quand ça allait bien, on comprenait pas ce qu'il y avait dedans. Les syndicats, c'est pas évident, hein, c'est 11% des salariés en France, 11,2 pour être précis, et 8,4 dans le privé. C'est pas facile, et cette révolte, elle est difficile à appréhender. Pourquoi ? Parce que ça part quand même d'une révolte fiscale. Et ça, il n'y a pas d'organisation qui défend les contribuables, ou très peu, en France. Et donc, assez logiquement, elle est difficile à appréhender pour tout le monde.
En tout cas, la suite, c'est demain et les jours qui viennent, évidemment. On sait que le rendez-vous entre les Gilets jaunes et le gouvernement est assez compromis pour demain. Mais c'est à suivre. On le fera, évidemment, dans le 18-20 France Inter. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos nombreux appels.